la poésie et les dieux. Ici, les dieux communiquent avec les hommes à travers les rêves.
Juste après la fin de la guerre, par une soirée d'avril humide et triste, Marcia, dans son vaste salon du XXe siècle, se retrouva seule. Seule avec ses aspirations, ses désirs secrets. Seule avec ses intimes pensées, qui, nées dans cette pièce, s'échappaient vers l'Orient, vers les oliveraies de la lointaine Arcadie qu'elle n'avait entrevue que dans ses rêves. Elle était entrée ici, avait éteint les lustres illuminés, et se prélassait à présent sur un moelleux divan, ayant gardé pour toute clarté la lueur d'une petite lampe verte, aussi apaisante qu'un rayon de lune à travers le feuillage d'une tonnelle. Habillée d'une robe de soie noire et décolletée, elle avait toutes les apparences d'un produit de la civilisation moderne. Ce soir pourtant, elle avait conscience de l'abîme incommensurable qui séparait son âme de son contexte matériel. Cela provenait-il de l'atmosphère étrange de sa maison, demeure glaciale où les relations étaient constamment tendues, où les habitants restaient les uns pour les autres des étrangers? Ou alors était-elle, par un curieux anachronisme du destin, née trop tôt ou trop tard, trop loin en tout cas, des lieux que son esprit chérissait, pour se trouver jamais en harmonie avec les laideurs de la réalité contemporaine? Pour chasser cette humeur bizarre qui l'envahissait, elle prit un magazine sur la table près d'elle, en quête de quelques poèmes qui apaiseraient ses tensions. Car la poésie était un calmant à son esprit. La plupart du temps, elle adoucissait son tourment. Parfois, pourtant, les vers les plus beaux flottaient en son âme comme un frais nuage de laideur et d'opacité stérile, telle est la poussière sur une vitre au travers de laquelle on tente d'admirer un magnifique coucher de soleil. Tournant distraitement les pages du magazine, comme pour y chercher un trésor inestimable, elle tomba soudain sur quelque chose qui dissipa sa langueur. Il sembla qu'une image précise, qu'une vision de rêve l'eût menée plus près de son but insaisissable. Il s'agissait seulement d'un fragment de vers libre, compromis pitoyable du poète qui ne parvient pas à maîtriser la divine mélodie des rimes. Ce morceau, pourtant, était imprégné de la musique primitive du barde qui vit intensément en quête de l'extase. Sans régularité, il naissait de ses mots comme spontanément une harmonie ailée qu'elle n'avait pas rencontrée dans les poèmes classiques et conventionnels qu'elle connaissait. Tandis qu'elle continuait à lire, tout ce qui l'entourait s'estompa peu à peu. Bientôt, il ne flotta plus autour d'elle que les brumes du rêve, brouillard pourpre parsemé d'étoiles, hors du temps, où seuls se promènent les dieux et les rêveurs. Lune sur le Japon, comme un blond papillon, que rêvent au rythme du coucou Bouddhas aux paupières lourdes. Blanches ailes des papillons lunaires battent en descendant les ruelles de la ville, réduisent au silence les inutiles mèches des sonores lanternes au creux des mains des filles. Lune sur les tropiques. Bourgeon aux courbes blanches, offrant ses pétales lentement à la chaleur céleste, l'air est rempli de senteurs et de sons langoureux. Une flûte dans la nuit égrène sa musique d'insectes sous le pétale de lune incurvée des cieux. Lune sur la Chine. Fatigué sur la rivière du ciel, le mouvement de la lumière dans ses saules, c'est l'éclat de milliers de boules argentées à travers les eaux noires, les mosaïques sur les tombes et les temples en ruine, lance des éclairs comme des déchirures, le ciel se peuple de nuages comme les écailles d'un dragon. Dans les brumes du rêve, la lectrice appelait les étoiles en mouvement. Dans la joie de sa lecture, elle avait senti renaître une ère nouvelle de chant, elle avait reconnu Pan. Les yeux mi-clos, elle répétait les mots dont la mélodie semblait se cacher derrière cette poésie de prose. Ainsi, les cristaux dissimulés au fond d'un ruisseau avant l'aurore scintillaient triomphalement au point du jour. Lune sur le Japon comme un blond papillon. Lune sur les tropiques, bourgeon aux courbes blanches, offrant ses pétales lentement à la chaleur céleste, l'air est rempli de senteurs et de sons langoureux. Lune sur la Chine, fatiguée sur la rivière du ciel. Venue des brumes, la silhouette d'un jeune homme resplendissait comme celle d'un dieu. Il portait un casque, des sandales ailées gravées d'un caducé, et sa beauté n'avait rien de terrestre. Trois fois il agita, devant les yeux de la dormeuse, la baguette qu'Apollon lui avait échangée contre la conque mélodieuse aux neuf cordes. Il plaça sur son front une guirlande de myrtes et de roses. C'est alors qu'Hermès parla. « Ô nymphe, toi dont la beauté dépasse celle des célestes Atlantides et des trois sœurs aux cheveux d'or, chérie par Aphrodite, sanctifiée par Pallas, tu as découvert le secret des dieux qui réside dans le chant et la beauté. Ô prophétesse plus digne d'amour que la Sibylle de Cume, quand Apollon vint la connaître, tu as parlé d'un âge nouveau. Car Pan soupire et s'impatiente de voir autour de lui les petits faunes couronnés de roses et les satyres anciens. Dans tes désirs, tu as deviné que les dieux ne sont jamais morts. Ils ne font, tu le sais, que rêver dans les jardins fleuris de lotus des Hespérides au-delà du pourpre occident. Voici qu'approche maintenant le jour de leur éveil. Bientôt périront la laideur et le froid, car ils règnent à nouveau sur l'Olympe. Déjà près de Paphos, la mer a bouillonné d'une écume que seuls les yeux antiques ont déjà contemplée. La nuit, sur l'Hélicon, les bergers entendent murmurer des mélodies à demi oubliées. Au crépuscule, les bois et les champs frémissent et l'océan immémorial laisse entrevoir des spectacles étranges au clair de lune. Les dieux sont patients. Ils ont dormi longtemps, mais n'ont rien perdu de leur puissance. Nul homme, nul géant ne pourrait leur lancer de défi. En Tartarie, les titans se tordent d'effroi, et sous l'Etna en flammes gémissent les enfants d'Uranus et de Géa. Le jour approche où l'homme devra répondre des siècles d'incroyance. Dans leur sommeil, les dieux ont gagné en bonté. Aussi ne le précipiteront-ils pas dans le gouffre destiné aux blasphémateurs. Leur vengeance dissipera l'obscurité, le mensonge et la laideur qui ont obscurci l'esprit de l'homme. Et sous le sceptre de Saturne barbu, auquel ils offriront des sacrifices, les mortels vivront dans la joie et la beauté. Cette nuit, ô toi, tu connaîtras la faveur des dieux. Tu verras sur le Parnasse les songes que des siècles durant ils ont envoyés sur terre pour prouver leur constante existence. Car les poètes sont les rêves des dieux. À chaque siècle, l'un d'entre eux a chanté, sans le savoir, le message des jardins de Lotus au-delà de l'Occident. Hermès souleva la jeune rêveuse dans ses bras et l'emporta à travers les cieux. Des brises venues du sommet de l'Aïolas les menèrent au-dessus des mers chaudes et parfumées. Ils se trouvèrent soudain devant Zeus, qui trônait sur le Parnasse. À la droite de son trône d'or se trouvaient Apollon et les Muses, et à sa gauche, Dionysos couronné de lierre et les bacchantes rouges de plaisir. Marcia n'avait jamais vu, même dans ses rêves de l'au-delà, pareille merveille. Cependant, elle ne fut pas trop éblouie par cet étonnant spectacle, comme elle l'eût été en Olympe. Car dans cette cour inférieure, le Père des dieux avait atténué son éclat, afin que les yeux des mortels pussent en supporter la vision. À l'entrée de la caverne coricienne, tout ornée de lauriers, six personnages étaient assis en rond. Ils ressemblaient à des hommes, mais leur allure était celle des dieux. La jeune fille se souvint d'avoir vu leurs portraits et les reconnut. Ils n'étaient autres que le divin Maconides, Dante, l'immortel Shakespeare, Milton, l'explorateur du chaos, Goethe, le cosmique, et Keats, bien-aimé des muses. C'étaient eux, les messagers des dieux, chargés de dire aux hommes que Pan n'était pas mort, car ce n'est que dans la poésie que les dieux parlent aux hommes. Celui qui lance la foudre prit la parole. « Enfant de ma lignée immortelle, en vérité tu es ma fille. regardent sur ces trônes d'ivoire nos messagers augustes. C'est par eux que dans les paroles et les écrits des hommes subsistent les traces de la beauté divine. Longtemps nous avons rêvé dans les jardins fleuris de lotus. Le moment approche où nos voix ne seront plus silencieuses. Le temps du réveil et du changement arrive. Phaéton, une fois de plus, a conduit son char très bas dans le ciel, sillonnant les champs, asséchant les cours d'eau. En Gaule, les nymphes solitaires et mal peignées pleurent auprès des fontaines taries. Au bord des rivières, les pins sont devenus rouges du sang des hommes. Arès et son équipage ont quitté les Hespérides à leur tour. Deimos et Phébus se sont gavés de paradis artificiels. Tellus se ronge de chagrin, et les visages des mortels sont semblables à ceux des Érinies. Au milieu du chaos, notre plus jeune messager s'apprête à annoncer sa venue. C'est lui que nous avons choisi pour mêler dans un ensemble glorieux toute la beauté du monde. Les mots se feront l'écho de la sagesse et de la bonté du passé. C'est lui qui proclamera notre retour. Nos conseillers ont été ces hommes que tu vois assis autour de nous. Dans leur chant, tu reconnaîtras les notes sublimes qui sont notre marque. Écoute bien leurs paroles. Par ta voix, l'un après l'autre, ils vont chanter. De nouveau tu entendras ces notes, dans la poésie, qui viendront apaiser ton âme. Mais il te faut attendre de longues années encore. Comme Alphée qui enfouit ses eaux dans l'âme d'Hélas ressurgit dans la lointaine Sicile sous la forme de l'arétus de cristal, ainsi chaque note qui réintégrera son antre secret t'apparaîtra quelques années plus tard, après ton retour sur la terre. Alors Homer se leva, le plus ancien des bardes. Il prit sa lyre et chanta son hymne à Aphrodite. Marcia ne connaissait pas le grec, mais elle perçut dans ce message le rythme secret qui n'a point besoin d'interprète. Les chants de Dante et de Goethe fendirent l'azur de leur mélodie merveilleuse. Des accents connus résonnèrent enfin aux oreilles de la rêveuse. C'était le signe d'Avon, autrefois Dieu parmi les hommes, aujourd'hui Dieu parmi les dieux. Écris, écris que du cours sanglant de la guerre, mon Seigneur bien-aimé, ton cher enfant se hâte de rentrer. Bénis-le dans sa demeure, tandis que je sanctifierai son nom à distance. Des accents plus familiers encore se firent entendre lorsque Milton, qui avait recouvré la vue, déclama ces vers immortels. Laisse ta lampe apparaître vers le minuit au sommet d'une tour solitaire, d'où je puisse deviner la grande ours avec Hermès trois fois grand, ou déchiffrer le langage de Platon pour découvrir les mondes que l'esprit mortel recèle. L'esprit qui délaisse son enveloppe corporelle laisse parfois s'échapper la splendide tragédie parée de ses atours, au nom de Thèbes, du Péloponnèse ou de Troie la divine. Enfin, ce fut le tour du jeune Keats. Les mélodies que l'on entend sont douces, mais celles que l'on n'entend pas sont plus douces encore. Aussi doux Pipo, jouez. Lorsque cette génération se sera écoulée, tu assisteras au malheur d'autres que nous-mêmes, fidèle ami de l'homme à qui tu expliqueras « La vérité est dans la beauté dans la vérité. » C'est tout ce que tu sais de la terre, tout ce que tu as besoin de savoir. » Le chanteur s'arrêta. Alors la déesse aux doigts de rose se prosterna aux pieds de Saturne. « Seigneur, s'écria-t-elle, il est grand temps que j'ouvre les portes de l'Orient. » Phébus, tendant sa lyre à Calliopée, son épouse, décida de partir pour le palais du soleil, semblable à un joyau, car les étalons attelés au char doré du jour piaffaient d'ardeur et d'impatience. Zeus descendit de son trône et posa sa main sur la tête de Marcia. « Ma fille, lui dit-il, l'aube approche à présent. Retourne sur la terre avant le réveil des mortels. Ne pleure pas, car l'ombre des croyances mensongères disparaîtra bientôt de sur le monde. Guette sans relâche l'arrivée de notre messager. Il t'apportera la paix et le réconfort. » Quand Zeus eut prononcé ces mots, Hermès reprit tendrement la jeune fille dans ses bras et l'emporta vers les étoiles qui s'éteignaient au-dessus des mers inconnues. Beaucoup d'années ont passé depuis que Marcia a rêvé des dieux du Parnasse. Ce soir, elle est assise sur le divan du salon, dans la pénombre, mais elle n'est pas seule. Son inquiétude a disparu, car près d'elle se tient celui qu'elle attendait. Il est là, le jeune poète parmi les poètes, au pied duquel le monde entier se prosterne. Il lit un texte que jamais personne n'a entendu, mais qui apportera aux hommes les rêves qui régnaient sur le monde avant que le grand Pan n'allât s'endormir en Arcadie, avant que les grands dieux ne se retirassent dans les jardins de lotus des Hespérides, au-delà de l'Occident. Dans les cadences subtiles de cette mélodie, l'esprit de Marcia vient de trouver l'apaisement. Elle vient de reconnaître les plus belles notes d'Orphée de Thrace, qui touchaient même les pierres et les arbres des rives de l'Èbre. Le chanteur s'arrête et attend son avis. Que pourrait dire Marcia en cette circonstance? L'œuvre est digne des dieux. Tandis qu'elle parle, apparaît à nouveau la vision du Parnasse et la puissante sonorité d'une voix lointaine. Ces paroles guideront tes pas vers le bonheur. Dans ces rêves de beauté, ton esprit trouvera ce à quoi il aspire. Thank you.